Vous écoutez Radio France Internationale, midi et demi en temps universel. Il est 14h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle étape aujourd'hui dans le processus initié la semaine dernière entre Kinshasa et Kigali à Washington. Conformément à la déclaration de principe qui avait été signée vendredi dernier par les ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda, les deux pays doivent transmettre les éléments qu'ils souhaitent voir figurer dans un futur accord de paix. Au Mali, les partis politiques appellent à un grand rassemblement demain pour défendre la démocratie. Une centaine d'entre eux étaient réunis hier à Bamako pour discuter d'une stratégie commune, alors qu'une concertation orchestrée par la junte au pouvoir recommande leur dissolution et le maintien au pouvoir sans élection du général Assimi Goïta. Les pressions économiques menacent la liberté de la presse partout dans le monde. C'est l'un des enseignements du rapport annuel de Reporters sans frontières. L'Afrique n'est pas épargnée. Sadibou Marong, responsable Afrique de RSF, est notre invité. La déclaration de principe signée vendredi dernier à Washington par les ministres rwandais et congolais des Affaires étrangères en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio prévoyait un délai d'une semaine. Kinshasa et Kigali vont donc transmettre dans l'après-midi les éléments qu'ils souhaitent voir figurer dans le projet d'accord de paix. Patient Ligodi, concrètement, que va-t-il se passer aujourd'hui et quelles sont les prochaines étapes?
Oui, Nicolas, vous l'avez dit, ce document qui sera ensuite rédigé par les États-Unis ne sera pas encore présenté officiellement. Il s'agit d'un brouillon de travail qui sera discuté et ajusté au fil des semaines. Jusqu'avant de venir dans ces studios, les équipes des deux délégations étaient encore en train de finaliser les contributions à soumettre. Les grandes lignes suivront les axes définis dans la déclaration de principe signée la semaine dernière. Respect de la souveraineté, lutte contre les groupes armés, commerce des minerais, il y a aussi la situation des réfugiés, la gouvernance régionale et le rôle des mécanismes internationaux comme la MONUSCO. Les ministres des Affaires étrangères, eux, ne sont pas physiquement présents à Washington pour cette étape et selon les sources au sein de la médiation, cet avant-projet d'accord ne sera pas publié pour l'instant et rien ne sera signé aujourd'hui. L'objectif est de parvenir d'ici à la troisième semaine de mai à une rencontre ministérielle à Washington pour finaliser un texte consolidé. La signature définitive, elle, est envisagée pour le mois de juin. Elle pourrait se faire en présence des présidents Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Donald Trump. D'autres chefs d'État africains pourraient également être invités.
Une quarantaine de personnalités congolaises dont le prix Nobel de la paix Denis Mukwege tire la sonnette d'alarme sur ce processus de Washington. Chercheurs, militants, universitaires, figures de la société civile, ils s'inquiètent dans une lettre ouverte adressée au président Félix Tshisekedi de l'orientation que prennent les négociations. Ils fustigent un processus opaque, dominé selon eux par des logiques extérieures et ils mettent en garde contre tout bradage des ressources congolaises. Le professeur Alphonse Maindo est l'un des signataires.
Il faut bien que la paix revienne au Congo, mais pas à n'importe quelle condition. Il faut véritablement s'assurer qu'il y a un processus de transparence pour que nous utilisions nos ressources pour notre bien-être, mais également que cela puisse se faire avec l'idée que nous, le peuple d'aujourd'hui, nous n'allons pas brader les ressources pour priver les générations de demain de ces ressources-là. Ça, c'est le message principal que nous voudrions lui dire et qu'il fasse ça dans la transparence, dans le respect de la loi. Il y a une alternative simple. Vous savez qu'il y a une résolution des Nations Unies qui détermine les choses à faire. Ce qu'on est en train de négocier maintenant, là, se trouve déjà là-dedans. Et donc, il faut simplement faire appliquer cette résolution. On aura une bonne partie des choses qu'on négocie maintenant qui sera déjà réglée. Et en plus de cela, concrètement, il faut qu'on puisse saisir les outils qu'on a. Il y a eu un rapport mapping. Donc, on peut faire une juste transitionnelle pour arrêter les cycles de violence. Si on poursuit les criminels, ça va décourager les gens à reprendre les armes.
Des propos recueillis par Patient Ligodi. Au Mali, les partis politiques appellent à la mobilisation. Les dirigeants d'une centaine d'entre eux étaient réunis hier à Bamako pour convenir d'une stratégie commune face aux menaces qui pèsent sur leur existence et le maintien au pouvoir annoncé du général Assimi Goïta. Une concertation orchestrée par la junte au pouvoir recommande en effet la dissolution des partis existants et Kassimi Goïta deviennent président de la République sans élection. David Bachet, les partis politiques appellent demain à un grand rassemblement.
Oui, rendez-vous est donné à 14h au Palais de la Culture de Bamako. Les partis politiques invitent tous les Maliens à se joindre à eux pour défendre la démocratie et pour rejeter les conclusions des pseudo-consultations de ces forces vives qui n'en sont pas, selon les termes d'un chef de parti en première ligne dans la mobilisation. Les partis politiques dénoncent la participation de responsables administratifs et tout particulièrement des gouverneurs de région. Ils ont joué le rôle de porte-parole. Des fonctionnaires ne devraient pas être utilisés pour inciter à violer la Constitution, estime cette même source. Une plainte sera déposée devant la justice malienne, selon plusieurs chefs de parti, qui indiquent qu'une équipe d'avocats doit être constituée en ce sens.
Le processus de dissolution des partis a déjà été enclenché avec l'adoption mercredi d'un projet de loi abrogeant la charte des partis politiques.
Et les partis vont s'opposer à cette disparition programmée, mais ce combat ne doit pas servir de diversion. Le projet d'élever Assimi Goïta au rang de président de la République, et non plus de président de transition, et de suspendre toute perspective d'élection pour une durée indéfinie, suscite l'indignation. La transition doit finir en 2025, martèlent plusieurs chefs de parti qui comptent demander un chronogramme clair. Pas d'appel à manifester dans les rues à ce stade, mais rien n'est exclu pour la suite. Si certains des dirigeants politiques joints par RFI sont plus va-t-en-guerre que d'autres, tous souhaitent faire bloc. Nous sommes soudés et décidés, assure l'un d'entre eux.
Un parent du Moro Naba arrêté au Burkina Faso. Le Moro Naba est le roi des Mossi. Il est une personnalité influente et respectée. Son demi-frère a été interpellé mercredi à Ouagadougou, Frédéric Gara.
C'est pendant qu'il faisait ses courses dans son quartier à Ouagadougou qu'Abdulaziz Kongo a été arrêté par des individus se présentant comme membres des forces de sécurité. Dans un premier temps, conduit chez lui, le demi-frère du Moro Naba, le roi des Mossi, a ensuite été embarqué pour une destination inconnue. Pas de raison officielle à cette interpellation, si ce n'est qu'en septembre dernier, Abdulaziz Kongo avait sur le site lefaso.net donné une interview où il émettait des réserves sur la conduite des affaires du pays. Il avait notamment rappelé que les autorités coutumières et religieuses du Faso avaient servi de caution entre les putschistes Damiba et Traoré en octobre 2022. Au regard de l'accord conclu, le capitaine Traoré devait veiller notamment à la réconciliation nationale et à la cohésion au sein des forces de sécurité. Une cohésion qui justement semble mise à mal depuis plusieurs semaines, à tel point qu'il y a peu, le Moro Naba a reçu une demande de la part du capitaine Traoré pour jouer les médiateurs dans les rangs fébriles de l'armée. Le roi des Mossi ayant décliné cette proposition, certains y voient la raison de la disparition de son frère.
Au Niger, le général Tiani nomme les 189 membres du Conseil consultatif de la refondation. Cet organe composé de 6 commissions thématiques est prévu par la charte de la refondation adoptée le 26 mars dernier. Il est chargé de formuler des recommandations au pouvoir des représentants de la société civile, des forces de défense et de sécurité et des religieux y prennent part. Au Nigeria, les gouverneurs du nord-est du pays réunis hier dénoncent la résurgence des attaques djihadistes. Une centaine de personnes au moins ont perdu la vie le mois dernier dans ces 6 états, Borno, Adamawa, Gombe, Taraba, Yobe et Bauchi. À l'issue de leur forum, les gouverneurs de ces états ont publié hier un communiqué pour alerter sur la situation sécuritaire très dégradée et appeler les forces de sécurité à revoir leur stratégie, Lisa Fabian.
Le groupe djihadiste Boko Haram et son rival de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'ISWAP, ont intensifié leurs opérations alors qu'ils semblaient avoir perdu du terrain ces dernières années. Leurs tactiques de combat ont aussi évolué avec l'usage de drones et le retour des engins explosifs utilisés notamment le long des routes. En début de semaine, 26 personnes ont perdu la vie lorsque le minibus à bord duquel elles circulaient a sauté sur une mine artisanale dans l'État de Borno. Dans ce contexte, les gouvernements du nord-est du Nigeria estime que la stratégie de l'armée n'est plus la bonne. Dans leur communiqué, ils recommandent une approche multidimensionnelle, je cite, en insistant sur l'éducation et l'emploi des jeunes, notamment pour lutter contre la pauvreté. Le mauvais état du réseau routier contribue aussi à l'insécurité, notent les gouverneurs du nord-est, qui regrettent l'abandon de certains projets, pourtant essentiels pour désenclaver les communautés et permettre leur développement.
Et même s'il ne le mentionne pas, on sait aussi que la force multinationale mixte est affaiblie après le départ du Niger, ce qui perturbe les patrouilles transfrontalières et le partage de renseignements entre les pays du bassin du lac Tchad.
Au Tchad, une sortie de succès Masra provoque des remous. À l'occasion des 7 ans de son parti, les transformateurs, l'ex-premier ministre a directement interpellé le président Mahamat Idriss Déby Itno. Il dénonce des changements cosmétique et pointe des forces d'influence nuisibles qui maintiendraient le statu quo dans le pays. Ces propos ont fait bondir certains proches du numéro 1 tchadien, Nadia Ben Mahfoud.
Des propos outranciers, une posture narcissique ou encore un ton irrévérencieux. C'est ainsi que décrit le secrétaire général du parti au pouvoir, le MPS, les propos tenus par Succès Masra. Dans sa lettre, l'opposant s'exprime avec un ton familier, il le tutoie, l'appelle mon frère ou encore mon ami et demande au président de se souvenir des accords de Kinshasa signés en 2023 et qui lui avaient permis de revenir au pays et de s'installer à la primature avant l'élection présidentielle de mai 2024. Mais selon l'OMPS, cet accord ne prévoyait ni privilège politique permanent ni reconduction automatique. Et l'un des négociateurs de l'accord, le sénateur Abderrahmane Koulamala, explique que ce texte ne comportait pas de clauses secrètes ni de promesses irréalisées. Pour le chercheur tchadien Wanatire Madji, Succès Masra fait un appel à la cohabitation politique, mais selon lui, l'OMPS, fort de son succès aux dernières élections législatives et locales, n'a pas envie de partager le pouvoir. Pour le chercheur, une cohabitation ne s'obtient que lorsque le pouvoir est dos au mur, et ce n'est pas le cas actuellement. Fin de citation. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Au Soudan, la guerre continue et aggrave la crise de l'eau. Avant même le conflit, 11 millions de Soudanais n'avaient pas accès aux services d'eau de base, selon l'ONG Humanitarian Action. 2 ans de conflit n'ont bien sûr pas arrangé la situation. 11 États du pays sont désormais touchés par une épidémie de choléra, et notamment Khartoum, la capitale. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI, Gaël Lalex.
Dans la banlieue ouest de Khartoum, l'armée et les forces de soutien rapide s'affrontent. Les habitants pris au piège n'ont plus d'électricité, de nourriture et surtout plus d'eau. Samira Idriss sort de chez elle pour en chercher.
On marche 10 à 12 kilomètres pour récupérer l'eau du puits de l'autre côté d'Omdurman. L'eau est un gros problème. Il y a beaucoup de monde, ça prend beaucoup de temps. On porte les bidons à bout de bras.
Ceux qui n'ont pas accès au puits récupèrent l'eau du Nil, comme Iman Abdallah qui vient du quartier d'Al-Mourbat.
Avec mon petit frère, on ramène tous les jours 2 gros seaux et 3 petits. Ce n'est pas assez, mais on se débrouille. On s'en sert pour cuisiner, se laver et boire. L'eau est sale, elle nous rend malade, mais on n'a pas le choix.
Les eaux du fleuve sont souvent contaminées. Le Nil rejette parfois des corps de victimes des combats ou des violences des forces de soutien rapide. Mouahed Adam, 23 ans, témoigne.
Quand on allait chercher l'eau du Nil, les snipers des FSR nous tiraient dessus. Même si on était des civils, ils nous soupçonnaient d'appartenir à l'armée. Aujourd'hui, ça va mieux. Je suis heureux de nager librement dans le Nil.
Depuis le début de l'épidémie de choléra, en août 2024, les Nations Unies ont recensé plus de 55 000 cas et 1 200 morts. Gaël Alex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
Il est 14h43 à Khartoum.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, on commence à faire la connaissance des grandes figures africaines du conclave qui commence mardi au Vatican pour désigner le successeur du pape François. Au Togo, les autorités mettent en garde contre de fausses promesses de bourse pour aller étudier en Russie. Et puis les sports, 5e et avant-dernière étape ce vendredi du Tour cycliste du Bénin. Alors que le conclave chargé de désigner le prochain pape débute mercredi, RFI s'intéresse à partir d'aujourd'hui aux principales figures africaines du collège cardinalis. Figures influentes de l'Église, ces cardinaux voteront. Certains d'entre eux sont même cités comme de possibles successeurs de François. Gros plan aujourd'hui sur le Guinéen Robert Sarah, ancien archevêque de Conakry. Il a été créé cardinal en 2010 par le pape Benoît XVI. Hafez. Aujourd'hui, il est l'un des chefs de file de la branche la plus conservatrice de l'église, Tanguy Billon.
Il s'est rendu célèbre il y a 10 ans avec son ouvrage « Dieu ou rien », un livre d'entretien traduit dans le monde entier. Dans ce livre et ailleurs, le cardinal Sarah tient des positions très conservatrices. Il promeut les messes traditionnelles en latin et rejette l'évolution de la liturgie sur le continent, des messes qu'il qualifie de trop bruyantes et trop africaines. Même s'il s'en défend, ses positions en ont fait l'un des chefs de file de l'opposition au pape François. Il a qualifié d'hérésie la bénédiction des couples homosexuels lorsque le défunt pape l'avait autorisé. Originaire d'Ourous, un village du nord de la Guinée et frontalier du Sénégal, il est fait archevêque de Conakry en 1979 à 34 ans seulement. En Guinée, il est connu pour son courage politique. Il s'est frontalement opposé au président Sékou Touré, puis à son successeur, l'ancien Conté. Et plus récemment, quelques semaines après le coup d'État, il a demandé au CNRD de rester fidèle à ses engagements pris le 5 septembre 2021. Tanguy Billon, Conakry, RFI.
Au Togo, les autorités mettent en garde contre de fausses promesses de bourses pour aller étudier en Russie. Le ministère des Affaires étrangères a été saisi de plusieurs cas de ressortissants togolais partis dans ce cadre, mais en fait envoyés en Ukraine pour se battre aux côtés des forces russes, Magali Lagrange.
Des ressortissants togolais détenus en Ukraine, capturés par les forces armées ukrainiennes alors qu'ils participaient à des opérations militaires aux côtés des forces russes. Une situation préoccupante. Les autorités togolaises ont récemment été saisies de plusieurs cas. Elles n'en précisent pas le nombre. Selon le ministère togolais des Affaires étrangères, ces personnes sont principalement de jeunes étudiants. Ils auraient quitté le Togo dans le cadre de prétendues bourses d'études universitaires proposées par des structures qui disent être basées en Russie. Ce n'est pas la première alerte. Il y a quelques semaines, le mouvement Martin Luther King dénonçait la situation d'un jeune Togolais emprisonné en Ukraine. Selon le MMLK, le jeune homme est parti en Russie en août pour poursuivre ses études. Mais une fois sur place, il est finalement envoyé sur le front ukrainien avant d'être capturé. Face à ce phénomène, les autorités togolaises appellent les jeunes à la plus grande vigilance avant de partir étudier à l'étranger, en particulier en Russie. Ils doivent se rapprocher des services compétents, notamment du ministère de l'Enseignement supérieure pour vérifier l'authenticité des offres qui leur sont proposées.
Les sports du cyclisme, cinquième et avant-dernière étape, ce vendredi du Tour du Bénin, 100 km de Ouigny à Porto Novo, la capitale. Et à l'arrivée, Olivier Pron, un sprint massif dominé par le patron.
Ah oui, le patron. Le patron, bonjour Nicolas, bonjour à tous. On est, pour tout vous dire, en train de rentrer de Porto Novo vers Cotonou, bien sûr conduit comme depuis le début de la semaine par notre pilote RFI qui s'appelle Barrio et qui est juste à mes côtés et qui a vécu avec nous ce sprint massif. Et le patron, bah oui, c'est Reinhard Jansen van Rensburg. Évidemment, le maillot jaune depuis qu'il a remporté la première étape lundi dernier, il a remporté celle-ci. Comme ça maintenant, il a 12 secondes d'avance au général, autant dire que les carottes sont quasiment cuites pour ses poursuivants, au premier rang desquels bien le Marocain qui termine juste derrière lui aujourd'hui. Le Marocain, deuxième au général, donc à 12 secondes, Ibrahim Essebaï, troisième ici à Porto Novo, un autre Marocain, Al Oukein Sabahi. C'est vrai que ça s'est terminé par un sprint massif et pour tout vous dire, Nicolas, on le rend presque un peu, que ce soit dans la voiture RFI ou partout ailleurs, et surtout ici au Bénin, parce qu'il y a eu une très longue échappée absolument magnifique, pendant plus de 80-90 kilomètres. Dans cette échappée, il y avait 6 coureurs, 2 Béninois, un Burkinabé, un Français et 2 Camerounais. Et les 2 Béninois, je vais les citer, c'est Ricardo Sojede et Rémi Sohou, parce qu'ils ont été acclamés du début à la fin de cette étape. Et puis Sohou a craqué en premier. Sojede, à un moment, a pris un mauvais chemin et puis il a réussi à revenir et à réintégrer cette échappée. Et puis finalement, les hommes de tête ont été repris à 2 km de l'arrivée. Donc, très beau numéro des cyclistes béninois chez eux pour arriver dans leur capitale. Mais à l'arrivée, c'est bien Reinhard Jansen van Rensburg, le patron de ce Tour du Bénin 2025, qui devrait s'imposer demain lors de la deuxième étape, la dernière étape, pas la deuxième. Voilà ce que l'on peut vous dire. C'était encore un paysage magnifique aujourd'hui. Forêt de teck, forêt de palmiers et beaucoup de monde sur les routes, beaucoup d'enfants, car c'était la rentrée des classes. Bah, je peux vous dire qu'ils ont séché les cours.
Olivier Pron, envoyé spécial de RFI sur le Tour du Bénin. Rendez-vous demain pour le final. Il est 14h49 à Paris. Anne Cantner, les grands titres de ce vendredi 2 mai.
2 mois de blocus à Gaza, 2 mois de siège selon un représentant des Nations Unies. Israël empêche l'entrée des camions.
L'aide humanitaire est au bord de l'effondrement total, alerte la Croix-Rouge et l'agence des Nations Unies OCHA se désole. La population en est réduite à se battre pour obtenir de la nourriture et de l'eau. Israël qui affirme toujours lutter contre le Hamas mis en garde par la plus haute instance de sécurité du Liban aujourd'hui contre l'utilisation du territoire pour mener des actions menaçant la sécurité. Cette déclaration fait suite à des tirs de roquettes vers Israël ayant entraîné des frappes de représailles. Israël a aussi bombardé la Syrie. Les abords du palais présidentiel disant vouloir protéger la communauté druze. Les combats entre cette minorité et des groupes armés proches du pouvoir ont fait plus de 100 morts en quelques jours. La présidence syrienne qualifie cette frappe israélienne de dangereuse escalade. Et puis le Cachemire pakistanais appelle ses habitants à stocker de la nourriture pour 2 mois, assure renforcer l'approvisionnement des villages le long de la frontière de facto avec la partie de cette région contrôlée par l'Inde. Des mesures alors que la tension est très forte depuis l'attaque qui a fait 26 morts au Cachemire indien il y a 10 jours. Voilà pour l'essentiel et tout de suite, l'invité d'Afrique Midi.
La liberté de la presse de plus en plus menacée partout dans le monde et notamment en Afrique. Le dernier classement mondial de Reporters sans frontières publié aujourd'hui s'inquiète notamment d'une concentration de médias entre les mains de proches des pouvoirs et d'une forte dépendance aux annonceurs publics. Sadibou Marong, directeur Afrique de RSF, est l'invité de Christina Okello.
Sadibou Marong, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fragilise autant l'indépendance des médias en Afrique aujourd'hui ?
De ce que nous avons observé, les médias restent concentrés entre les mains de quelques groupes privés et des personnalités politiques. Et cette concentration est notamment remarquable dans des pays comme le Nigeria, qui perd 10 places cette année, et où on a vu des médias entre les mains d'acteurs politiques. C'est également le cas dans d'autres pays comme la Sierra Leone, le Cameroun. Et tout cela aussi s'accompagne d'une dépendance aux revenus publicitaires. Et ces revenus-là sont majoritairement détenus par les budgets de communication de l'État et des grandes entreprises. Et on a vu le cas aussi au Bénin, où on a vu des contrats de partenariat et au Togo aussi.
Et concrètement, jusqu'où peuvent aller ces pressions économiques ? Peut-on parler de représailles dans certains cas ?
C'est une situation qui accroît effectivement la pression sur les rédactions. Certaines d'entre elles sont poussées à l'autocensure, souvent par crainte des financements ou même de la publicité. Il y a des cas emblématiques au Kenya, par exemple, où beaucoup de médias sont des victimes. Par exemple, The Nation Media Group, qui a vu ses publicités retirées par l'opérateur privé Safaricom après avoir révélé le rôle de cet opérateur dans la surveillance des communications de citoyens. Il y a aussi le cas du Nation Media Group, qui en juin 2024 a été obligé de se séparer des membres de son personnel, environ à peu près d'une centaine, en évoquant une situation économique difficile.
Et comment expliquer cette fragilisation économique ?
Il y a ce qu'on peut considérer comme un manque de subventions publiques assez pérennes, mais aussi l'enjeu, c'est aussi la transparence de ces subventions. Dans plusieurs pays, les aides des États sont rares ou sont distribuées de manière assez discrétionnaire. Nous avons vu en Mauritanie, par exemple, ces aides sont affaiblies par une mauvaise gouvernance et cela compromet l'indépendance des médias. Nous avons vu dans d'autres pays comme le Sénégal où des autorités sont engagées à réformer un peu la transparence des aides publiques, par exemple. Et cette transparence est au cœur donc des réformes. Bon, mais il y a quelques contestations de la profession.
Au Sénégal, justement, 350 médias ont été suspendus pour des raisons de conformité. Est-ce que cela ne pose pas un vrai risque pour la liberté de la presse ?
L'enjeu principal, c'est quoi ? C'est le droit à l'information. Et le public qui reçoit cette information doit pouvoir savoir qui sont derrière ces médias-là. Il est important que ces médias soient connus et reconnus, mais aussi pour lutter contre des aspects comme la désinformation, les autorités doivent continuer à s'engager avec les médias pour pouvoir clarifier toutes ces choses-là. Mais cela en soi ne nous semble pas comme une sorte de violation grave de la liberté de la presse. C'est un processus et c'est un processus qui est encore ouvert et il faut aller vers cela parce que c'est important au nom du droit à l'information.
Parlons maintenant des zones de crise au Sahel, au Soudan ou encore en RDC. Comment garantir la survie des médias dans de tels contextes ?
Le classement révèle effectivement que la dégradation de la sécurité des journalistes compromet directement aussi la viabilité économique des médias au Sahel d'une manière générale. On l'a vu au Mali, on l'a vu également au Burkina, où les activités des médias sont suspendues. Et Et on a aussi vu que des journalistes jugés critiques des autorités ont même été enrôlés de force dans l'armée, ce qui renforce la chape de plomb sur les médias. C'est également le cas au Soudan où la guerre en cours a exacerbé les difficultés économiques des médias. Et c'est aussi le cas dans l'Est de la République du Congo, avec des dizaines de fermetures de radios et de journalistes déplacés et désormais sans emploi.
À ces difficultés s'ajoutent aussi les sanctions judiciaires et administratives. En quoi complique-t-elle le travail de journaliste ?
En Guinée, dans plusieurs autres pays aussi, les autorités utilisent donc la justice ou les organes de régulation pour sanctionner des organes de presse. Donc on a vu comment en Guinée, le ministère de la Communication a retiré les agréments de licence des médias tels que Joma TV et Espace TV, et ce qui a entraîné au moins 700 pertes d'emplois. Et c'est le cas aussi au Mali avec la suspension qu'on a vue de la chaîne Joliba TV par la HAC, l'organe de régulation, et cela a aussi fondamentalement provoqué une chute des revenus publicitaires.
Malgré ces tableaux préoccupants, y a-t-il des raisons d'espérer ? Quels sont les pays qui tirent leur épingle de jeu ?
Au-delà de l'Afrique du Sud et du Cap-Vert, qui sont traditionnellement un peu des pays qui sont assez bien classés, il y a aussi le cas de la Namibie et du Gabon. La Namibie, c'est un pays qui retrouve son ancrage traditionnel de la liberté de la presse. C'est un pays où on n'a pratiquement pas noté relevé d'exactions contre des journalistes en 2024. Et le processus ayant conduit aux élections de novembre dernier n'a pas eu d'effet négatif sur les acteurs des médias qui n'avaient pratiquement pas reçu de pression politique. Il y a le Cap-Vert qui est traditionnellement un pays qui est très serein en termes de liberté de la presse, et le Gabon aussi, qui sortait d'une longue période d'atteinte à la liberté de la presse, qui a poursuivi un peu cette tendance avec des conditions d'exercice qui se sont améliorées, et des journalistes qui étaient en exil ont pu revenir dans le pays.
Et justement, quelles sont les conditions qui permettent à ces États de garantir un meilleur environnement pour les journalistes ?
Il y a la question de la sécurité des journalistes de plus en plus importante, et la possibilité aussi que les journalistes peuvent avoir de travailler sans risque de représailles et sans risque également d'être emprisonnés de manière souvent arbitraire. Le fait que aussi les journalistes ne sont pas sous des pressions économiques ou des pressions financières, mais également des pressions de type juridique. Si tout cela, ce sont les bonnes conditions pour l'exercice normal d'un journalisme libre et d'un journalisme fiable et d'un journalisme de qualité.
Sadibou Marong, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Sadibou Marong, directeur Afrique de RSF, au micro de Christina Okello. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. C'est une comédie musicale très attendue qui se joue ce week-end au Théâtre National du Kenya. Elle raconte l'histoire de Wango Wa Makeri, la première femme à être devenue chef de tribu chez les Kikuyu, l'une des plus importantes ethnies du pays. Elle a vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e sous la colonisation britannique. Le reportage de notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir.
Dans cette comédie musicale, Wango Wa Makeri apparaît comme une femme audacieuse et provocatrice, une féministe qui a accédé au pouvoir en défiant les traditions, mais un personnage aussi qui a suscité des controverses. C'est ce qu'explique Nelex Nderitu, qui joue le rôle de son mari.
Wango Wa Makeri a été nommé chef à une époque où les colons essayaient de mettre sur pied leur administration. Et avec cette administration coloniale, sont apparues les taxes. Wango était connue pour récolter ces taxes sans pitié. Elle régnait avec une poigne de fer. La légende dit aussi qu'elle organisait des réunions en s'asseyant sur le dos des hommes. Il y a plein de mythes, de légendes, pas toutes vraies la concernant. Et nous évoquons tout ça sur scène.
Wango Wa Makeri a perdu son titre de chef après avoir participé à une danse réservée aux hommes et avoir fini par danser nu. La musique rythme la représentation des chants en langue Kikuyu, sélectionnés avec soin par Gatoni Wawo.
La pièce se déroule au début des années 1900. À l'époque, les histoires se transmettaient à l'aide de proverbes, de chansons. C'est pour ça que la musique est très importante dans notre spectacle. Nous avons incorporé des chants de l'époque aux origines de la musique Kikuyu.
Signe de l'intérêt suscité par Wango Wa Makeri, les trois premières représentations annoncées ont vite affiché complet. Deux autres ont dû être ajoutées. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et c'est à Nairobi que se termine cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
Destination la terre rouge d'Abomé au Bénin, à la découverte des 47 hectares du complexe des palais royaux, de la riche histoire du royaume du Dahomey. de Wegbaya, le patriarche, à Béanzin, le résistant, sans oublier le conquérant Agadja et le stratège Gezo, je vous raconte des palais et des rois.
Afrique, mémoire d'un continent, tous les dimanches à 8h10 TU, sur RFI.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Jean-Marie Emébé qui publie « Deux points, ouvrez les guillemets », son parcours de champion d'Afrique entre 1976 et 1994. Surnommé « Le chasseur » pour ses KO légendaires, lui qui aura boxé pour le drapeau camerounais et français remonte sur le ring de la mémoire.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.
Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, il est encore temps d'envoyer vos textes avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.